Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
C'est toujours privilège de partager la parole de Dieu et aussi une responsabilité. Merci pour vos prières. Et quand on m'a proposé de prendre le message, assez rapidement, en pensant à ce message, j'ai reçu une pensée du Seigneur. Alors, j'ai travaillé dans ce sens-là. C'est vrai que je prêche souvent sur la louange puisque c'est mon ministère principal, mais je crois qu'il n'y a pas que la louange. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels Dieu nous parle, bien que c'est un fondement important. Alors, le thème de ce matin s'appelle... Non, c'était déjà trop vite, mon PowerPoint. Je vais y arriver. Voilà. Le changement. Je crois que ce message s'adresse à chacun individuellement. Quand on parle sur un thème comme celui-ci, d'ailleurs comme beaucoup d'autres, on peut toujours penser à son voisin, à sa voisine, à sa femme, à son mari, à ses enfants. Et là, j'aimerais que vous le preniez pour vous. Moi, le premier, je le prends pour moi. D'ailleurs, que je l'ai présenté à ma femme, elle m'a dit, c'est pour toi. J'ai dit, d'accord. Je suis d'accord. On a tous des changements à vivre. Et je crois qu'on est même dans une étape. Alors, je peux vous dire, je l'ai préparé depuis plusieurs mois, et puis c'est pas Barack Obama et Change qui m'a fait donner ce message. J'avais déjà cette pensée à cœur et cette direction, donc je la partage avec vous ce matin. Merci. Alors, votre vie chrétienne, je sais pas comment vous l'avez vécue, à quel moment vous avez démarré dans la vie chrétienne, mais normalement, si ça fonctionne bien, ça commence par un changement. La conversion, c'est un changement de direction, n'est-ce pas? Donc, c'est fondamental dans la vie de chaque chrétien de comprendre ce principe-là. Parce que si on veut être chrétien sans comprendre qu'on doit changer, ça va pas bien aller. Et c'est le problème peut-être qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu un petit peu cette dimension de la repentance. Et il y a beaucoup de chrétiens, de gens qui adhèrent à l'église, qui adhèrent au système chrétien, qui adhèrent à des réunions, qui aiment peut-être bien chanter, qui aiment bien retrouver des frères et sœurs, qui acceptent de suivre, mais qui changent pas vraiment de direction. Et bien, ça pose un problème, justement, dans l'église, dans le peuple de Dieu, parce que Dieu nous demande de changer. Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, je vous cite les versets parce qu'on n'a pas le temps de ouvrir à chaque fois, mais je les ai notés. Je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Donc là, on sent vraiment le cœur de Dieu, le désir de Dieu qu'on change. Dieu veut pas la mort. Dieu veut pas la condamnation. Mais il veut que sa présence, son esprit, sa parole nous fasse changer. Donc on a vraiment une mentalité à avoir, un changement de direction pour partir dans une autre direction. On allait tout droit, mais Dieu nous demande de faire demi-tour. D'ailleurs, c'est le sens du mot conversion, vous le savez, hein, à ce qui, suivant où. C'est important de faire la conversion parce qu'autrement on est mal barré si on continue dans le sens où on est. Et je crois que dans notre vie chrétienne, c'est la même chose. On a besoin de comprendre qu'il y a un changement. Et puis ce changement, il se produit pas juste une fois. Ce que j'aimerais vraiment vous laisser ce matin, c'est que c'est un principe. Et beaucoup de chrétiens aussi se cachent derrière la conversion. Moi, j'entends, je visite pas mal d'églises où j'entends les gens prier. Seigneur, merci parce qu'en 1982, lors de la campagne Billy Graham, je me suis converti, c'était merveilleux. Je dis, puis depuis 82, il s'est plus rien passé. Dieu t'a plus parlé, Dieu t'a plus touché, il y a plus rien qui s'est passé. Non, il y a des autres étapes dans la vie chrétienne. J'espère que Dieu est intervenu dans ta vie, dans d'autres situations, à d'autres moments pour lesquels tu peux aussi le remercier. Donc ce changement continue. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime trop. Vous saviez ça? Il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Vous avez déjà pensé à ça? Il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Alors moi, je me pose vraiment la question. Si tu crois pas, demande à ta femme, à ton mari, à tes parents, ce qu'ils en pensent. Ils t'aiment tellement, mais il y a des choses en toi qui doivent changer encore. Il y a des choses dans ta vie, dans ton caractère, dans ta personnalité qui doivent évoluer. Alors, j'espère que vous arrivez à voir ce petit dessin. Dieu est heureusement plus patient que nous. Hein? Dieu, il a de la patience pour nous. Il y a quand même des choses qu'il veut qu'on change. Combien de fois faut-il t'expliquer comment utiliser le dentifrice? Pendant qu'il lit le journal. C'est vrai qu'au fond, on voit peut-être pas très bien. Dieu est plus patient que nous. Il nous aime, mais il nous aime qu'il ne veut pas nous laisser comme on est. Alors, en fondement, c'est que ce qui est clair, c'est que Dieu ne change pas. C'est étonnant. On parle de changement, puis en même temps, il faut bien comprendre ça. Dieu ne change pas dans qui il est, dans sa personnalité, dans son amour, dans son caractère, dans sa bonté, dans sa fidélité, dans sa miséricorde. Et si on étudie chacun de ces mots, mais c'est puissant. C'est que dans la parole, Dieu se présente avec 285 noms différents. Donc ça, c'est 4 ou 5 de ces noms, mais il y en a plein d'autres. Et chacun de ces noms, c'est une facette de son caractère. On connaît aussi ce texte, il nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vous cite aussi d'autres textes, Malachie 3, 6. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc dans sa toute puissance, dans son existence depuis l'éternité, il ne change pas. Hébreux 12, 27. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Donc il y a des choses qui sont secouées, puis je crois qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu l'actualité, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont secouées. Hein? Ça secoue même assez fort. C'est des tremblements de terre, pas sur la terre ferme, mais dans le monde économique, dans le monde politique, dans le monde financier. Il y a des tas de choses qui sont ébranlées, mais ce texte nous dit qu'il y a des choses inébranlables qui vont subsister malgré ces ébranlements-là. Et c'est là qu'il faut s'accrocher. C'est là qu'il faut comprendre qu'il y a au moins ce Dieu-là qui se présente comme un rocher dans la parole. Donc un rocher. Vous connaissez peut-être le psaume 61 qui dit « Conduis-moi au rocher que je ne puisse atteindre. » Nous, on est ébranlés, on ne sait pas trop comment, à quoi s'accrocher, mais le rocher, il est là. Et puis Jacques 1, 17, on chante aussi dans un chant « Toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Et dans un monde dans lequel on vit, où tout change, où tout bouge, c'est important d'avoir une référence. Et pendant longtemps, notre société, entre autres en Suisse, était basée sur cette référence-là, et puis ça donnait une stabilité. Aujourd'hui, on oublie un petit peu ces stabilités, on oublie ce rocher, on oublie un peu ces valeurs, ce qui fait que ça secoue encore plus. Mais toujours est-il que plus ça va secouer, plus on va devoir apprendre à se raccrocher à ce rocher-là. Alors là, il y a encore un psaume aussi qui parle de ce Dieu qui change pas, qui le présente. « Je ne violerai point mon alliance, je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David ? Sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il y aura une éternelle durée, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. » Dieu ne viole pas son alliance, Dieu ne change pas, Dieu a décidé de te pardonner, a décidé de t'aimer et il ne va pas changer. Toi, tu peux changer. Toi, tu peux abandonner, mais lui, il va pas t'abandonner. Alors, encore un petit dessin. Dieu est incorruptible. Hein? On voit un gars là qui discute avec Dieu. Il dit, écoute, Seigneur, si tu m'obtiens cette promotion, je te donne tout, même peut-être plus, je mettrai plus d'argent dans la collecte. Puis le chat qui dit, qui pourrait douter d'une telle sincérité? Hein? Dieu est incorruptible. Il écoute nos prières. Il entend ce qu'on lui dit. Et il veut nous toucher, mais il va pas changer son caractère, sa bonté, sa miséricorde, sa justice. Il ne va pas devenir injuste pour te faire plaisir à toi. Il va rester juste. Le changement, il peut aussi mal se produire. Il y a des mauvais changements qui se passent. On les voit dans la société, des évolutions. On le voit aussi dans nos vies, peut-être. On peut s'enfoncer dans le péché, on peut s'éloigner, on peut rétrograder. Ésaïe 5, verset 20, nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Dieu a prévu des bonnes choses et pourtant on les détourne. Hein? On change la lumière en ténèbres ou la douceur en amertume. On inverse ce que Dieu avait prévu. Au lieu de partager la bonté, on nourrit l'amertume. Au lieu de donner le pardon, on reste dans la haine. Et puis ça, c'est un mauvais changement parce que ça produit des mauvais fruits. Parce que ce qu'on donne, ce qu'on partage, ce qu'on dit, c'est une semence, c'est une vie. Donc si c'est une bonne vie, ça va porter des bons fruits. Si c'est une mauvaise vie, une mauvaise parole, ça va amener des mauvais fruits. Donc l'amertume, croire des mensonges qu'on nous dit. Combien de chrétiens sont découragés et croient toutes sortes de choses de la part de Dieu? Ils disent « Oui, je suis nul, j'y arriverai pas. C'est impossible que je m'en sorte. » Où est-ce que vous avez trouvé un verset biblique qui vous dit ça? Vous avez déjà vu le verset où c'est écrit « Je suis nul » ? Pourtant, il y a plein de chrétiens qui le proclament. Et moi, j'ai cherché dans ma Bible, je l'ai lu plusieurs fois, j'ai jamais trouvé ça. Pourtant, on y croit. Pourtant, c'est écrit dans la Bible le contraire. Je t'aime, tu es puissant, tu es fort, tu es costaud, tu es un héros. Puis on dit, ouais, ouais, ça c'est pour les autres. Hein. On croit pas ce que Dieu nous dit, et puis on croit ce que Dieu nous dit pas. C'est quand même incroyable. Et ça, c'est comme ça que Dieu veut faire, veut nous changer pour qu'on croie ce qu'il dit, et pas écouter les mensonges de l'ennemi. Nourrir le passé, etc. Il y a beaucoup de cheminements comme ça. Alors, j'ai mis un petit panneau. Attention, plaque de glace, hein. Verglas, c'est dangereux. Par contre, la Bible nous parle de bons changements. Il y a des bons changements possibles. Alors, j'ai parlé de la conversion, mais il y a bien sûr beaucoup d'autres étapes. Ces bons changements sont sains et salutaires et même nécessaires. J'ai mis en parenthèse vos proches et vos amis et vos collègues vous remercieront. S'ils savent que vous avez un sale caractère et que vous fâchez tout le temps et que tout à coup vous avez pris conscience de ce problème, que vous faites des efforts pour changer, mais ils vont se dire, ah, c'est incroyable comme t'as changé. Ça fait plaisir. Et ils le voient et ils l'apprécient. Et dans la parole, on voit que c'est souvent annoncé. La prophétie, si vous lisez les prophéties de la Bible, et même vous écoutez les prophètes qui parlent, ils annoncent toujours un changement. C'est pas pour dire ce qui est déjà, c'est pour annoncer une différence. Alors je vous cite quelques prophéties. Jean 16, verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Il y a toujours une espérance dans la prophétie. Il y a toujours une porte de sortie. La situation, elle est décrite telle qu'elle est. Des fois, on n'est pas très heureux d'entendre ce qui se passe. Mais en même temps, il y a toujours une parole d'espérance dans la prophétie de Dieu. Ésaïe 41, verset 18. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang, la terre aride en courant d'eau. Qu'est-ce qui peut avoir de mieux pour un désert que d'être transformé en étang? Puis ça semble impensable. Ça semble impossible de voir ce changement-là. Mais avec la parole de Dieu, avec la prophétie que Dieu annonce, les choses vont se passer. Alors, bien sûr que c'est parfois une image où ça doit se passer dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies. Mais aussi, il y a des fois des changements réels sur la terre que Dieu opère parce qu'il les a annoncés et parce que Dieu veut changer carrément la terre. Si Lauren Cunningham, qui est le fondateur de Jeunesse en Mission, il a fait une étude très poussée sur les peuples, les nations et sur la terre. Et il a remarqué que partout où la parole de Dieu a pénétré sur une nation, sur un pays, il n'y a pas de problème d'eau. Par contre, dans tous les pays où il y a de l'idolâtrie, où il y a des nations qui entièrement sont rebelles au Seigneur, il y a un gros problème d'eau. Et c'est des pays désertiques, c'est des pays qui souffrent. Donc, ça nous montre que ça a une influence jusque dans la terre, le changement que Dieu veut amener sur une nation. Ésaïe 42, 15, « Je ravagerai montagnes et collines, j'en dessécherai toute la verdure, je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai les étangs à sec. » Des fois, c'est le changement inverse qu'il faut faire. Si on est dans l'inondation, ben, il faut que Dieu assèche. Dieu est intéressé à changer la situation. Donc, il y a des bons changements. Alors, je vais vous parler un petit peu de ces changements. Qu'est-ce que c'est qu'un changement? Qu'est-ce que ça produit? Pourquoi on a besoin de changer? Parce qu'un changement amène une évolution, un progrès. Comme j'ai dit, il y a des mauvais, mais on va parler là du bon changement. Ça amène un développement, une croissance. Augmentation, multiplication. Et dans ces choses-là, je parle pas je suis pas dans un contexte d'entreprise, hein, où je vous dis, il faut, voilà, faire une multinationale et puis augmenter votre chiffre d'affaires pour impressionner les concurrents. Bien sûr, ça a aussi un effet sur nos affaires, ce que Dieu fait. Mais moi, là, je parle de nos cœurs, de nos vies. Il faut que ça se passe ça dans notre vie, dans notre caractère, dans nos dons. Parce qu'autrement, on va rester fataliste, comme c'est dans bien des familles. Oh, il est comme le grand-père, hein. Puis l'arrière-grand-père, alors je t'explique pas, hein. C'était aussi comme ça. Ça veut dire, bon ben, c'est comme ça quoi. Le fils sera comme ça, puis le petit-fils, ça va être encore pire, hein. Ben, ça augmente avec les années. Non, je crois qu'il peut avoir ce changement, même dans notre caractère, et c'est ce que Dieu veut. Donc, ça améliore aussi les autres autour de toi. Si toi tu changes, ça sera positif, hein, pour toi, pour les autres. Donc, on a besoin de comprendre qu'il faut sortir de nos ornières. Je sais pas si vous avez des fois des ornières, hein. Ça peut arriver, parfois. Reconnaître que dans le fond, c'est ça le problème, on n'aime pas changer. Qui c'est qui aime changer? Hein? Regardez déjà l'église où on s'assied. Hein? Bon, il n'y a pas les noms sur les chaises, il n'y a pas des numéros, mais on aime quand même bien son petit coin. Hein? Puis c'est pas qu'à l'église, c'est dans plein d'endroits. Hein? Les vaches à l'écurie aussi, elles se mettent toujours au même endroit. Hein? C'est vrai, hein? Je vous compare pas à des vaches, mais c'est la réalité. Donc, il y a en nous un côté religieux qui n'aime pas changer. Et c'est souvent lié aux religieux. Quelqu'un disait, on a tous un pharisien qui sommeille en nous. Quand on lit la parole, quand on lit les pharisiens, etc., on se dit, oh, ils sont quand même terribles, comme ils sont avec Jésus, comme ils le critiquent, comme ils s'opposent à ce qu'il fait. Mais n'oubliez pas qu'il y a en nous tous parfois des réactions de pharisiens. On n'aime pas. Alors, par exemple, dans Actes 6, 14, voilà ce qu'ils disent. « Car nous avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Les Juifs étaient vraiment fâchés comme Jésus parce qu'il allait toujours plus loin que leurs coutumes, que leurs programmes, que leurs habitudes. Hein? Quand il prêchait dans la synagogue, il y avait des réactions. Quand il allait à quelque part, il y avait des guérisons, il y avait des délivrances. Et puis, il faisait jamais ça le bonjour, au bon moment, à la bonne heure. Il y avait toujours quelqu'un pour le corriger, pour le reprendre. Et des fois, nous-mêmes, on se prend pour les gardiens du temple. On se prend pour ceux qui doivent dire à Jésus, « Ouais, Jésus, là, tu pourrais faire comme ça, puis là, pas comme ça. Hein? » On aime bien, parce que quand Jésus vient, ça change. Quand Jésus vient dans une église, dans une réunion, dans nos cœurs, il vient pour nous changer, pas pour nous laisser comme on est. Et puis, il y a ce côté-là où on dit, « Jésus vient, mais pas trop près. Hein? » Je regarde ce que tu fais pour les autres, surtout si tu touches ce frère-là qui va pas bien, ça serait super. Hein? Puis Dieu veut venir aussi vers toi, te changer toi. Donc on a besoin d'apprendre ça. Dans Actes 10, vous avez tout ce texte incroyable qui parle de Pierre qui entend Saint-Esprit, lui donne une vision, puis qui lui demande de changer, mais c'est difficile pour lui. Parce qu'il est dans une mentalité où il essaye de plaire à Dieu dans son système religieux, et puis Dieu le fait changer dans son système religieux, dans son habitude chrétienne. Et ça, c'est pas facile. Mais il y a des fois où le Saint-Esprit nous demande d'obéir et d'aller plus loin. Et moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois dans la louange. Des fois, je dis, non, Seigneur, je vais quand même pas faire ce chant parce qu'ils vont pas aimer. Le Seigneur dit, oui, fais ce chant. Ou un geste, ou bouger, ou lever les mains. Vous vous souvenez, la première fois que vous avez levé les mains dans la louange? La première fois. J'ai l'impression que les mains, elles étaient collées, là. Dans les poches, elles étaient vissées, soudées, collées, araldites. Tout d'un coup, vous sentez que vous avez envie d'exprimer quelque chose. Alors, vous levez les mains comme ça, puis vous avez l'impression de faire un exploit, hein. Alors qu'elles sont encore pas tellement levées, hein. Et puis, si vous les levez un tout petit peu plus, tout d'un coup, vous pensez à votre transpiration, à votre chemise, à votre voisin, puis vous êtes sûr qu'il y a une caméra qui est en train de vous filmer, et que tout le monde va vous voir, et puis que c'est horrible. Alors, il y a quoi de plus naturel? Il y a quoi de plus simple? Hein? Si vous allez au club d'aérobic ou de gym, et puis que vous faites des gestes, il n'y a pas de problème. Tout d'un coup, dans la louange, ça devient difficile. Pourquoi? Pourquoi on n'aime pas changer, et puis bouger, sortir notre habitude? Dans une église, on a fait un séminaire de louange. J'ai dit, bon, on va, ce soir, on a bien appris la louange, on a fait plein de choses, on va bouger. On va enlever toutes les chaises. Ok, on a enlevé toutes les chaises. À peine les chaises étaient enlevées, les gens sont venus se mettre debout à la place où il y avait leurs chaises. Je dis, vous avez le droit de déplacer, de bouger maintenant. Il n'y a plus de chaises, donc profitez de l'espace. Hein. Donc, on doit apprendre à sortir nos ornières. Sortir de ces ornières, pas rester coincé dans l'ornière. Si vous êtes là sur un chemin comme ça avec une voiture, on peut être planté là, rester croché parce que l'ornière nous bloque. Alors, la question, qu'est-ce qui nous empêche de changer? J'essaie d'étudier, de voir certaines choses dans ma vie ou dans d'autres autour de moi, dans la parole. Je crois que je relève certaines choses comme ça. Peut-être certains se reconnaîtront. Hein? Par exemple, le perfectionnisme. On a toujours fait comme ça. Hein? Et puis, c'est comme ça que ça marche. Bon. Le rejet. On a peur d'être rejeté par les autres. On a peur qu'on nous rejette. L'insécurité. On se sent pas à l'aise parce qu'on connaît pas le territoire. Hein? Si on va dans un autre endroit, dans une autre église, comment on fait? Hein? Sur la crainte, la peur, c'est très fort. L'intimidation. On est intimidé par la situation. Le contrôle, l'orgueil, et puis je suis sûr que vous pouvez rajouter d'autres. Hein? On se bloque, on se braque. C'est un âne qui est assis hein, et qui bouge plus. Vous connaissez ça? Est-ce que vous faites la prière WC? Vous connaissez la prière WC? Dans certaines toilettes, c'est marqué « Prière de laisser cet endroit comme vous l'avez trouvé ». Il y a des gens, ils prient, ils disent « Seigneur, change-moi, mais en fait, laisse-moi comme je suis. » Il y a un problème. Ça ne marche pas. Hein? Donc, quand tu entres dans la prière, quand tu t'approches de Dieu, tu dis « Mais change-moi. » Alors, Dieu dit « Ok, tu veux? On y va. » Et puis, tout d'un coup, c'est là que le problème se présente. Parce que Dieu veut changer quelque chose que toi, tu veux pas changer. et il y a une confrontation. Donc, on doit passer un petit peu par un test. Hein. Je ne vais pas vous mettre des notes, je ne vais pas compter les points, mais je vous invite simplement à vous poser ces questions vous-même. Comment je réagis au changement? Justement, quand on me demande de changer quelque chose dans mes habitudes, et puis dans les choses très concrètes, dans mon bureau, ma cuisine, ma maison, et puis quand ça va encore plus au fond des choses, dans mon caractère, hein, il y a toujours des gens autour de nous que Dieu a placés, hein, pour nous aider à voir, parce que des fois nous on voit pas, hein, qui sont des miroirs, des rétroviseurs qui nous aident. Même dans l'église, comment je réagis quand il y a un culte qui est pas le même qu'avant, où il y a une petite différence dans l'ordre, ou bien on fait pas la Sainte Cène, ou bien la louange est différente. Comment on réagit? Et puis dans le royaume de Dieu, dans l'église en général, il n'y a pas que notre église. Hein? Est-ce que d'une manière générale aussi, on est conservateur ou on est prêt à nous débarrasser de certaines choses? Parce que pour avancer, il y a des fois, il faut lâcher le sac, il faut lâcher le fardeau, il faut faire de la place. Hein? Donc Dieu a inventé les poubelles. Non, je ne sais pas si c'est Dieu, mais en tout cas ça existe et c'est pratique. Parce qu'il y a des choses dont on doit se débarrasser. Alors il y a des choses, c'est facile si c'est un papier à le jeter. Il y a des choses qui sont en nous, c'est plus difficile. Et pourtant, Dieu nous demande de lâcher pour pouvoir avancer. Et ça, je peux le voir, parce que dans la vie, dans tout ce qui est à vie, vous pouvez regarder dans le monde autour de vous, hein, tout ce qui est à vie, tout ce qui est vivant évolue. Une plante, un arbre, un être humain, ça évolue. Si votre enfant, bébé, reste dans les couches toute sa vie, à 20 ans, vous lui changez les pampers, c'est pas très content. Hein? Vous avez envie qu'il grandisse, vous avez envie qu'il évolue, et c'est normal. Et pour tous ceux qui travaillent dans la nature, ben, ils aiment voir l'évolution. Les agriculteurs voir l'évolution des champs, voir que ça pousse, c'est ça qu'on veut voir. C'est cette vie qui vient, qui croît. Et Dieu nous a créés pour cette croissance, pour croître. Alors moi je vous pose la question, quand est-ce que tu as fait quelque chose de nouveau pour la dernière fois? Parce que des fois, on est tellement bien dans notre système, dans nos habitudes, qu'on fait rien de nouveau, puis qu'on n'est pas prêt à prendre de risques, parce qu'on prend un risque quand on fait de nouveau. Je connaissais une sœur à Yverdon, dans l'église. Elle a appris à partir de l'âge de 50 ans à nager. Elle a pris des cours de natation. Elle a appris à conduire. Elle a fait son permis. Elle a appris l'allemand, les cours d'allemand. Elle a appris à jouer du piano. C'est pour ça que je la connais, parce que je lui ai donné des cours de piano. À 50 ans, elle a appris tout ça. Et c'était un grand défi pour sa vie. C'était pas évident, parce que elle n'avait pas eu l'occasion avant, et puis dans toutes sortes de situations. Et ces choses, elle les a pas fait facilement. Ça lui a demandé beaucoup d'efforts. Mais maintenant, elle est très contente d'avoir fait ces étapes-là. Et d'avoir changé sa manière de faire, plutôt de dire, oh, je suis toute seule à la maison, je peux pas conduire, je peux pas sortir, personne peut m'aider, il faut toujours que je trouve quelqu'un. Non, elle a pris en main cette situation pour changer. Donc, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Vous avez déjà remarqué ça, hein? Et puis, il y a des choses qu'on aime, qu'on sait qu'on doit changer, mais il y a d'autres qui changent malgré nous, autour de nous, hein. Et là, aujourd'hui, on voit comment ça évolue tellement vite dans l'informatique, dans la technique. Des fois, on aimerait que ça change pas, hein. Je peux vous dire. Des fois, on aimerait bien que l'ordinateur fonctionne sans rien changer. Et pourtant, ça change. Il faut. Là, on est obligé. Donc, on n'a pas le choix. Hein, parce que autrement, ça marche plus. Donc, on fait l'effort. Il y a des situations dans nos vies, on a rien qui nous pousse, puis alors on fait pas l'effort. Et pourtant, c'est beaucoup plus important de faire cet effort-là, de changer. Regardez dans la Bible, dans la parole de Dieu, les hommes de Dieu ont dû changer. Alors, je vous cite rapidement, hein, Abraham, il a changé de lieu, Dieu lui parle, il a changé de coutume, d'habitude. Jacob, il a changé de nom, de combat, de lutte avec son frère, avec son père, avec l'ange. Moïse, il a changé de titre, de position. C'était pas évident, hein, d'être à la cour de Pharaon, puis après de se retrouver avec les Hébreux, après dans le désert comme berger, après nouveau chef des Hébreux face à Pharaon. Pas évident ces changements-là. Il les a pas vraiment voulu, puis en même temps il a obéi à Dieu qui voulait qu'il change. Donc, tout un programme. Joseph, je crois pas qu'il y a beaucoup de changements qu'il a voulu. Et pourtant, sa vie était incroyable. Ce qu'il a pu faire, parce que Dieu a changé sa vie, même par des moments difficiles, ça a eu un impact incroyable. David aussi, il était berger, il était content avec sa harpe, il jouait, il s'occupait des moutons. De temps en temps, un petit ours, un petit lion à tuer. Et puis, tout d'un coup, voilà, le prophète arrive, lui donne l'onction, lui dit, tu seras le roi. Je sais pas s'il était heureux sur le moment. Après, il faut combattre Goliath, puis après, il y a Saül qui le poursuit, il doit se cacher dans la grotte, et quelle aventure! Tout le temps, il doit changer. Dieu le pousse à ce changement. Paul, eh bien, on connaît l'histoire de Paul, l'apôtre Paul. Chaque homme, ça sera un message entier, donc je vous laisse réfléchir. Pierre, aussi, avant que qu'il entre vraiment dans les actes, ben il, et puis déjà avant il a un autre métier, il change de métier pour suivre Jésus, pour être disciple. Puis après quand il est disciple, il a un peu de la peine. Puis quand Jésus part enfin, il rentre dans sa mission apostolique et il fait des choses incroyables. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que le changement c'est pas un rêve. Il y a des gens qui rêvent. Oui je changerai. Oui ça va changer. C'est des rêveurs, ils sont sur le fauteuil, sur la lune, dans la lune, ils voient les étoiles. Donc c'est pas juste des bonnes résolutions comme on fait le 1er janvier. Oui je vais faire ça. Souvent ça marche pas. Et c'est mieux de se mettre en route avec ce que Dieu a prévu. Donc pour cela, dites oui au changement de Dieu. Quand Dieu vous parle, il n'y a pas besoin de dire je vais changer puis on sait pas comment. Mais quand Dieu vous parle, et je crois que Dieu nous parle, n'est-ce pas? On lit la parole, il y a une parole pour nous, on dit Seigneur, ça c'est pour moi. Il y a un message occulte, ça c'est pour moi. On le prend en main et puis on dit ok, j'y vais avec ça. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas, mais je commence avec ça. Donc Romains 12, verset 2 nous parle d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et puis 2 Corinthiens 3, 14, 18 aussi nous parle de ce changement, de cette transformation. Donc le mot c'est métamorphoser, transformer. Donc ça parle de réformer. Alors, on reparlera un tout petit peu de ça pour terminer. La réforme. Dieu veut nous réformer. Donc, il faut qu'on soit transformé. Comment? Ben, dans notre vision de Dieu. Peut-être qu'on ne voit pas Dieu de la bonne manière. On pense qu'il va nous condamner, donc on ne veut pas s'approcher de lui. Mais c'est un Père et qui a un bon plan pour nos vies. Donc, si on comprend son caractère, son amour, ça va changer. Aussi, la conception du Saint-Esprit. Peut-être qu'on a une fausse conception qui nous fait craindre d'écouter le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit... C'est la lumière qui nous éclaire sur ce chemin, sur ces changements justement à prendre, ou sa manière de manifester sa puissance. Ma vision de la louange, moi ça fait 20 ans que je sers dans ce domaine-là, j'ai évolué, il y a des choses que je faisais, que je fais plus, qui ont changé, et je sais que je dois encore changer. Conception de la guérison, de la délivrance, de la foi, des finances, ma vision des finances. Avec Jeunesse en Mission, on a sorti un livre qui s'appelle « Bien, richesse et argent » de Earl Pitts. Ça a révolutionné la manière de gérer les finances de beaucoup d'hommes d'affaires, de beaucoup d'entreprises et de beaucoup de personnes. Parce que c'est un homme qui a réfléchi et qui a amené un changement dans son propre fonctionnement, dans sa propre entreprise et qui a pu influencer beaucoup d'autres aussi. La conception de l'Église. Si on pense qu'à sa conception à soi, on va prendre une Église qui nous convient. Mais si on pense à la conception de Dieu, on va rentrer dans le plan de Dieu pour l'Église. Alors, n'oubliez pas une chose, c'est important, le changement a déjà commencé, que vous le vouliez ou non. Hein. Ne manquez pas le train, montez dans les wagons. Peut-être que vous allez dans le dernier wagon, mais au moins, rentrez dans ce changement que Dieu a prévu. Ce prophète Samuel, le jeune Samuel qui était au temple, sa mère venait chaque année lui faire une nouvelle robe. Comme elle venait une fois par année, elle devait prévoir un peu plus grand. Elle devait anticiper, dire « il va grandir ». Et puis des fois Dieu il nous met justement d'une chemise un peu trop grande pour on est mal à l'aise. Seigneur, mais là j'arrive pas, c'est pas ma taille. Et Dieu il voit plus loin que toi. Donc accepte la taille que Dieu veut te donner. Il y a aussi les nouvelles outres, le vin nouveau chaque année, ça vous connaissez. Hein? Luc 5, 37, 38. Passer de la génération de Moïse à celle de Josué, la génération d'Élie à celle d'Élisée. Dans la Bible, il y a souvent un passage de témoin d'une génération à l'autre. Donc, voilà. Beaujolais nouveau est arrivé. Hein? Ils sont tout fiers de l'annoncer quand il arrive, pour dire c'est nouveau, ça arrive, il faut changer. Alors le bon changement, finalement, c'est pas quelque chose où on se force par soi-même et puis on change d'un coup comme ça. C'est une évolution. Comme une plante, comme un animal, comme un enfant, ça évolue. Et nous, quand on est tout près de nos enfants, des fois on les voit pas grandir. Mais on voit les enfants des autres de 6 mois en 6 mois, puis on se dit, aïe, 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 comme ils ont grandi, comme ils ont évolué. Et c'est ça, je crois, l'évolution saine. C'est pas quand ils prennent 15 centimètres en un mois. Hein. Donc, c'est une avance sereine et paisible, une décision déterminée, une réforme de notre système. C'est ça qui doit changer. C'est notre système de pensée qui doit changer. Alors, il me reste 2 diapositives, et puis je crois que ça va être la conclusion, les mots importants. Le changement ne signifie pas, parce qu'on peut toujours tourner un message dans l'autre sens, qu'il faut critiquer ceux qui évoluent différemment, qui ne changent pas comme ils devraient. Ou bien quitter l'Église parce que de toute façon l'Église ne change pas, puis l'Église n'a rien compris et puis que ce n'est pas juste. Ce n'est pas ça. Changement signifie je prends mes responsabilités pour ma vie, quant à ma propre vie, quant à l'Église, quant au royaume de Dieu. Aimer mon prochain malgré ses différences. Et demander l'aide de Dieu pour accepter et gérer les changements qu'il veut opérer en moi. Je pense que ça, c'est le point le plus difficile. Bien sûr, la prière dans cette dimension-là. Parce que tout seul, on n'y arrive pas. Donc, reconnaître, Seigneur, j'ai besoin que tu me changes. J'ai besoin que tu m'aides à changer. Et j'ai besoin que tu me donnes la force de changer. Donc, ma conclusion, c'est un texte biblique. Simplement, l'histoire de Josué, passée à la génération Josué. Je crois que on a changé de génération. Et l'Église passe dans différentes générations. Il y en a qui veulent rester dans la génération des Hébreux en Égypte, qui sont satisfaits, ils sont contents, ils ont à manger dans leur maison, ils servent le Pharaon, mais ça leur suffit. Et puis, il y en a d'autres qui ont traversé la mer Rouge, d'autres sont arrivés dans le désert, il y en a qui sont satisfaits du désert. Mais je crois que l'Église, aujourd'hui, 21e siècle, c'est l'Église de la génération Josué. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Josué, il a vu la promesse, il a voulu la prendre. Ce que Moïse lui a dit, toutes les récits, il faut qu'on aille à Canaan et qu'on prenne ce territoire. Donc pour ça, il y a du travail, envoyer des espions, mettre sur pied une armée. Moi, je suis pas un fan de l'armée, hein. J'ai fait mon école de recul, mes cours de répète, c'était pas mon temps préféré. Mais il y a des moments où c'était important pour ma vie. Et je crois que spirituellement, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on doit apprendre, être prêt à être soldat au bon moment. Donc établir des plans, des stratégies, la responsabilité des responsables du peuple de Dieu, combattre les ennemis du royaume de Dieu dans notre vie ou dans l'Église, prendre le territoire. Bon, tout ça, ça se fait pas en un jour, hein, comprenez bien. Mais si on est déterminé, on va y arriver. Et on sait que même s'il faut plusieurs mois, plusieurs années, on va le faire. C'est ce que Dieu nous demande. Et ensuite, il faut s'établir, il faut pas juste combattre, prendre, s'installer et rester. Et ma conclusion, c'est la passer d'une vision d'Église à celle du royaume de Dieu. C'est pas que ma petite vie, ma petite église, mais c'est le royaume de Dieu sur Échallon, sur le canton de Vaud, sur la Suisse et sur le monde. C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? On veut voir ce royaume faire un changement dans la société. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu s'intéresse à la terre, pas pour la laisser comme elle est, mais pour amener un changement clair. Alors on va simplement prier pour terminer. Merci Jésus. Seigneur, je te bénis parce que tu es venu nous toucher et que tu es venu changer nos cœurs et nos vies. Tu nous as pas laissés comme on était dans notre misère, dans notre péché, dans notre situation. Tu es venu nous chercher. Mais je te prie maintenant qu'on saisisse cette opportunité de nous laisser encore transformer par toi. Nous laisser encore changer par toi. Et d'entrer dans une véritable réforme, Seigneur. Quand Calvin, les réformateurs sont venus à Genève, c'était pas facile, ils avaient une terrible opposition et personne ne voulait changer. Mais avec ta force, ton autorité, ils ont changé des choses qui ont encore des conséquences aujourd'hui. Je prie Seigneur que tu fasses de l'Église ici une Église réformatrice, une Église qui change, qui amène des changements dans la vie des gens, qui puissent se tourner vers toi, mais aussi jusqu'à une influence dans les secteurs de la société, de cette ville, de ce canton. Merci Seigneur, parce que pour ça, on a besoin de toi. Et tout seul, on va pas y arriver. Donc, tu établis toi-même ton changement dans nos cœurs. Et on se rend disponible à toi. Éclaire-nous par ton Saint-Esprit ce matin. Restons juste une minute dans le silence et laissons le Saint-Esprit confirmer les choses dans nos cœurs ou établir ou sceller des mots ou des situations dans lesquelles on doit changer.